ce qu'on veut, qui a un frère notoirement corrompu, qu'on appelle Monsieur 10%. Donc ça permet de complètement canaliser l'hostilité, les rancœurs de la population sur deux figures qui, de toute façon, elles, n'ont pas le contrôle effectif du pays, vu que le pays, lui, il est géré par ses décideurs, c'est-à-dire ses généraux, dont le plus important était, pendant jusqu'à sa mort naturelle en décembre dernier, le général Gaït Salah, chef d'état-major depuis 2004. Donc, pour ces décideurs, c'était formidable. On avait un président de façade. On avait un système qui est institutionnel de façade. Cette illusion convenait au monde entier. On continuait à envoyer des délégations. On parlait même d'alacrité pour le chef de l'État. Hein. Et pendant ce temps-là, ils continuent à faire ce qu'ils savent faire parfaitement, c'est-à-dire s'en foutre plein les poches. Piller le pays, le racketter, se répartir, ce qu'on appelle en Algérie avec beaucoup d'humour l'import-import, hein, vu que de toute façon, en Algérie, on ne produit que des hydrocarbures, 95% des recettes d'exportation, en fait 97 ou 98%, et 2/3 ou 3/4 des ressources de l'État.
Ça, c'est imprévu.
Donc, il ne faut pas s'illusionner. Si les décideurs avaient été suffisamment intelligents, mais c'était trop leur demander, hein, il faut voir qu'ils vivent à la fois dans un monde totalement opaque par rapport au reste de la société algérienne et totalement néandertalien par rapport à l'évolution de la politique contemporaine. Si les décideurs n'avaient pas choisi la facilité du cinquième mandat, il est possible que nous ne soyons pas là ce soir pour parler d'un renouveau algérien. C'est cette provocation manifeste, cette humiliation de 42 millions de femmes et d'hommes qui les a jetés dans la rue. Parce qu'il était très clair que Bouteflika n'était plus qu'un mort-vivant, qu'une momie. Et d'ailleurs, il n'apparaissait plus dans aucun des meetings. Le meeting dans lequel a été annoncée sa candidature, il était représenté par un cadre. Donc on est arrivé à cette situation ubuesque, mais au sens propre, où un cadre parlait à des hommes, où des hommes applaudissaient un cadre après qu'on ait lu le discours du cadre, et où, pour que quand même vraiment l'illusion soit complète, on a fini par offrir un cadre à un cadre. Donc cette situation a jeté les Algériennes et les Algériens dans la rue. Là encore, les décideurs auraient pu immédiatement lâcher Bouteflika et sans doute auraient calmé la colère populaire. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont prolongé. Hein, et ce n'est que le 2 avril, 22 février, 2 avril, qu'ils ont finalement accepté de le pousser à la démission. Entre nous, hein, je ne sais pas si Bouteflika était conscient qu'il était candidat, je ne sais toujours pas s'il était conscient qu'il a démissionné, mais reprenez toute la presse, y compris la presse bien informée en France, le système Bouteflika, la monarchie républicaine, le cercle du pouvoir. Moi, personnellement, dans Généraux gangsters et djihadistes, entre autres, j'avais toujours expliqué que pour reprendre un de mes rappeurs favoris, car j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup le football, toutes choses qui vous amènent à comprendre beaucoup de la politique algérienne. Mais pour ça, évidemment, il faut sortir un peu des palais et aller écouter ce qui se passe dans la rue et ailleurs. Et un rappeur avait dit, il y a déjà quelques années, en Algérie, on respecte tellement les morts qu'on en a mis un à la présidence. Donc, depuis que Bouteflika est parti, vous avez remarqué, personne ne sait où il est, et personne d'ailleurs ne s'en soucie. Parce que...
Il est son anniversaire hier. Ah. Dans les échos.
Oui, d'accord, mais on ne sait pas où il a soufflé ses bougies. Donc, c'est ça ce qui vous montre. C'est-à-dire que soudain, la façade s'est écroulée. Hein, et donc, le régime a révélé sa véritable nature, celui d'une clique militaire, hein, prédatrice, hein, pour être poli, hein, et qui ne sait au fond que donner des ordres, et qui a commencé à dire « bon, allez, maintenant, c'est fini. Allez, maintenant, c'est fini. » Et puis, les Algériens, c'était pas fini. Parce que le 22 février, ils ont été complètement, vraiment stupéfaits de se retrouver aussi nombreux dans la rue. Le 1er mars, le vendredi suivant, ils étaient très inquiets. Nous, amis de l'Algérie et des Algériens, on était tous très inquiets, parce qu'on pensait que le régime pouvait tirer. Et puis, le 8 mars, il s'est passé quelque chose d'incroyable. qui s'est d'ailleurs renouvelé plusieurs fois pendant cette année, c'est que les fêtes du régime sont tombées un vendredi, et donc le régime les a vues sous ses yeux être détournées par la population qui les a investies d'une ferveur populaire qui était totalement absente des fêtes du régime. 8 mars, journée de la femme. Et ça a été un déferlement de femmes de tous âges, les grands-mères, les mères, les filles, les petites-filles, ce qui a non seulement garanti, ce qui est très important, la participation féminine dans ce mouvement, mais qui a aussi garanti la non-violence. Je voyais encore un activiste dimanche dernier qui me disait « ce sont les femmes qui nous protègent ». Parce que les femmes nous ont permis de ne pas justement sombrer dans ce qu'on sait parfaitement faire, c'est-à-dire balancer des pierres, ce qu'on appelait en Algérie la culture de l'émeute. Il faut savoir que dans les années qui précédaient le Hirak, on avait une moyenne de 15 000 incidents violents par an en Algérie. Parce que ça devenait le rapport normal de la société à l'État. L'État est corrompu, inefficace, absent. Ben, j'attaque le commissariat, je coupe la route, je fais une barricade. Hein, et on a la Kabylie qui est pratiquement dans cet état d'autonomie de fait hein, depuis déjà un certain temps. Donc l'idée, c'était de rompre avec cette fatalité de la violence, non seulement la fatalité de la violence qui avait culminé pendant la décennie noire, mais aussi de rompre avec cette culture de l'émeute et d'arriver... Moi, j'ai encore une jeune fille qui m'a livré un récit qu'elle avait fait de sa première journée de manifestation. Et la fin, c'est « je suis arrivé devant les policiers, il y avait par terre des bouteilles en verre vides ». On voit bien qu'elle a quand même une grande tentation de leur balancer à la figure, et elle les prend et elle va les mettre dans le sac du service de nettoyage, parce que, bon, maintenant, la blague en Algérie, bon, je vous ferai beaucoup de blagues algériennes, hein, parce que les Algériens ont un humour tout à fait corrosif, et qui est redevenu un humour drôle, alors qu'avant, c'était, avant le Hirak, c'était devenu un humour totalement dépressif. Enfin, c'était vraiment la dernière blague avant le suicide. Et là, on est avec un humour très drôle, et donc maintenant, les Algériens disent « Ah, si on pouvait tous les jours de la semaine comme le vendredi !» Parce que le vendredi, ils sont polis, ils sont courtois, ils sont respectueux, et comme ils disent, ils vendredisent. « Je vendredi, tu vendredi, il vendredi, nous vendredisons, vous vendredites, ils dégagent. » Et c'est ainsi qu'ils ont mené leur mouvement. Alors évidemment, maintenant on dit « Ah, le dégagisme, c'est pas une politique, c'est pas une politique. » Allez demander aux Algériens si c'est pas une politique. Pour eux, c'est une réalité. C'est-à-dire que tant qu'ils verront des gens de la clique en question dans des positions d'autorité sur leur vie, eh bien ils resteront mobilisés. Ce qui ne veut pas dire que leurs revendications se limitent à un dégagisme sommaire, bien au contraire. Mais pour cela, il fallait en passer par cette année, et peut-être plus. Ils ne sont pas pressés. Ils ont pour eux le temps, l'espace, le nombre. Le régime n'a plus rien. Le régime ne fonctionne que sur des slogans éculés. Évidemment, ah, le complot de la France. Ah, la main de l'étranger. Ah, les agitateurs payés par... la DGSE, etc., etc. Ah, alors ça, ils le ressassent à longueur de temps. Hein. Mais il ne faut pas croire que cela prend, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le silence quand même assourdissant de la France, mais surtout de la société française, hein, des intellectuels français et de la classe politique, ne soit pas ressenti en Algérie comme une forme de chèque en blanc à l'égard du régime. Mais nous y reviendrons sans doute pendant les questions. Alors, qu'est-ce qui... Bon, moi, j'ai appelé mon essai « La nouvelle indépendance » parce que c'est au cœur de ce qui se passe. La nouvelle indépendance. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble du monde arabe, ce qu'on a parlé improprement de printemps, ce que moi, j'ai toujours qualifié soit de soulèvement démocratique, soit de vague révolutionnaire, c'est une lutte pour l'autodétermination. Il faut enfin comprendre que ces peuples veulent se libérer des régimes qui les oppriment et qui, de leur point de vue, sont une nouvelle forme de colonialisme intérieur. Non pas de néocolonialisme, comme le régime algérien voudrait le faire croire sur tous les tons en agitant les épouvantails de la guerre de libération, mais de colonialisme intérieur. Car il y a eu effectivement une mise en coupe réglée de l'Algérie, enfin, pour tous ceux qui aiment l'Algérie, pour tous ceux qui y sont allés ces dernières années, c'est un crève-cœur qu'un pays qui a autant de ressources soit dans un tel état parce qu'il y a un tel détournement, une telle gabegie, une telle corruption, une telle incompétence, que vraiment, ça choque. Et c'est cela qui a fait aussi que les jeunes et les moins jeunes sont descendus dans la rue parce qu'ils veulent reprendre en main leur pays. En fait, ce qu'on voit, c'est fondamentalement une bataille autour du patriotisme. Et cette même année 2019 a vu le vendredi tomber le 5 juillet, fête de l'indépendance, et le 1er novembre, anniversaire de la guerre de libération. Et les deux fois, les drapeaux algériens ont été, ça a été des marées humaines qui les ont portés, et le patriotisme, si j'ose dire, a changé de camp. Maintenant, le nationalisme, il est dans la rue. Or, en Algérie, la vraie ressource éternellement renouvelable, c'est la fierté nationale. Et la fierté nationale, à partir du moment où elle échappe aux mains du régime et qu'elle va du côté du peuple et de la rue, eh bien là, effectivement, on rentre dans autre chose. C'est pourquoi je suis convaincu que ce qui s'est passé en Algérie est irréversible. Ce qui ne veut pas dire que c'est gagné, vu que c'est justement un processus politique qui reste ouvert. La nouvelle indépendance, parce que dans l'ensemble du monde arabe, on a eu un cycle d'indépendance qui a duré un demi-siècle, de 1922 à 1971, la première indépendance, l'indépendance égyptienne, indépendance contrainte, indépendance sous contrôle britannique très dur, elle a été obtenue après un mouvement non violent comparable à celui que connaît aujourd'hui l'Algérie, qu'on appelait à l'époque une saoura, une révolution. D'ailleurs, les Algériens qualifient le Khilaf de révolution et ainsi ont repris ce mot de révolution, de saoura, un régime qui prétendait que la seule révolution, la seule et unique, c'était la guerre de libération contre les Français, et qu'une fois celle-ci terminée, ben, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de révolution. Hein. L'Algérie est la citadelle de la révolution pour l'éternité. Eh bien, ils disent non. Voilà, cette révolution, nous allons la faire, et après l'indépendance post-coloniale, nous voulons l'indépendance post-dictatoriale. Sur les murs d'Alger, on a ces graffitis, 1962, indépendance de la terre, 2019, indépendance du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, on voit, et pour l'historien, c'est fascinant, mais pour le citoyen, pour le citoyen du monde, c'est extraordinaire. On voit des jeunes qu'on disait dépolitisés, lobotomisés par leur console vidéo, par leur portable, avoir une fin d'histoire, demander, exiger, rechercher, ce qui s'est vraiment passé dans leur pays, ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre de libération. Et en France, on connaît hein, comment le débat a été plombé, hein, le projet de loi de 2005 et autres surenchères démagogiques. Mais nous avons fait notre travail de mémoire. Hein. Bertrand Delanoë et Durand, le gouvernement de Lionel Jospin, a inauguré une plaque sur le pont de Paris où les Algériens ont été martyrisés en octobre 1961. Et on pourrait multiplier les mesures qui ont été prises par des gouvernements socialistes, ne l'oublions jamais. Mais en Algérie, ce passé qui ne passe pas, il passe toujours pas, parce qu'on continue de mentir sur la guerre de libération. D'abord, on dit 1 million de martyrs. Alors là, franchement, faut quand même être sérieux, hein. Allez, 300 000 si vous voulez, mais pas 1 million. Alors Gaït Salah, il est carrément 1 million et demi. Et après, des millions. C'est-à-dire que plus le peuple demande, plus le nombre de martyrs augmente. Et là, il paraît que quand les Turcs étaient en visite, ils leur ont dit 5 millions. Enfin, 5 millions depuis 1830. Même ça, ils ont été obligés de démentir. Parce que bon, trop, c'est trop. Alors qu'évidemment, les Turcs, ah, 5 millions, vous avez vu, hein, c'est quand même plus que pour les Arméniens. Hein. Oh là là là, les Français. Hein. Voilà. Donc, bon, tout ça serait effectivement risible et lamentable si ce n'était pas aussi tragique. Donc, la guerre de libération a été terrible, mais la guerre de libération, comme toutes les guerres de libération, a été une guerre civile entre Algériens. Pas uniquement contre l'occupant français, pas uniquement contre les pieds noirs. Et cette guerre-là, effectivement, on ne la raconte pas aux Algériennes et aux Algériens. Il y a deux figures, toutes deux mortes en 1957, qui aujourd'hui sont revendiquées. Y compris par des manifestants très jeunes, et j'essayais de comprendre, et ils m'exprimaient avec leurs mots, et là, ils reprenaient cette antienne qui est « Ô martyrs, soyez bien heureux, car vous n'avez pas vu ce que l'indépendance est devenue. Hein ». Alors, ces deux personnes, c'est Larbi Ben Mehdi, lui est mort aux mains des parachutistes français, mais il disait « Jetez la révolution dans la rue et le peuple s'en emparera ». C'est-à-dire qu'en pleine bataille d'Alger, il disait « C'est pas ça qui marchera ». Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des manifestations, qu'on ait des grèves, qu'on ait des protestations civiles qui, justement, vont mobiliser la population plutôt que des coups de main, des guérillas et des attentats. Et puis l'autre, et c'est encore plus important, c'est Aban Ramdan. Aban Ramdan, lui, il est mort en 1957, mais il est mort aux mains de ses camarades de combat. Il est mort assassiné par l'armée des frontières. Alors c'est quoi l'armée des frontières ? L'armée des frontières, elle n'a pratiquement tiré aucun coup de feu contre les Français. Il y a eu quelques incidents par-ci, par-là. Elle était sous l'autorité du colonel Wari Boumediene, qui avait pour homme lige Abdelaziz Bouteflika. Ah, comme c'est étrange. Donc vous voyez que cette histoire, ça fait quand même bien longtemps qu'elle avait commencé. Et justement, les Algériennes et les Algériens veulent aujourd'hui s'émanciper de cette histoire, se libérer une fois pour toutes. Parce qu'Aban Ramdan, c'était l'architecte de la plateforme de la Soumam, c'est-à-dire le programme du Front de Libération Nationale, qui, quand il a lancé sa guérilla en novembre 1957-54, n'avait qu'une déclaration, il n'avait pas de programme politique. Et dans le programme politique de la Soumam, il y a deux points essentiels, la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'est pour cela que l'armée des frontières a attiré Aban Ramdan dans un guet-apens en 1957 au Maroc pour le liquider et faire porter la responsabilité de sa mort sur les Français. Eh bien aujourd'hui, on revendique Aban Ramdan, on revendique la vérité, on revendique, c'est le slogan phare du Khirak, un État civil et non militaire. Alors les militaires disent, ah ben vous voyez, on a un président civil, ben vous voyez, oui, sauf que pendant un an, on a bien vu que le roi était nu, que celui qui prenait toutes les décisions, c'était le chef d'état-major, qui d'ailleurs ne s'exprimait que dans des enceintes militaires, à un public militaire, alors qu'il était censé s'adresser à la nation et répondre au slogan du Khirak. Mais on a vu aussi que ce sont ces militaires qui, du fait de leur incurie politique crasse, ont été incapables d'éviter à l'Algérie le vide constitutionnel dans laquelle elle s'est trouvée plongée à partir de l'été, vu que l'intérim qui aurait pu servir après la démission de Bouteflika pour élaborer une authentique transition, l'opposition avait fait des propositions très constructives, et bien Gaïd Salah a balayé tout cela, et on s'est retrouvé effectivement dans une situation très délicate de vide constitutionnel, avec un président par intérim qui de toute façon était largement absent. Et donc, en septembre, Gaïd Salah s'est réveillé, il a dit « Bon, allez, maintenant c'est terminé, Moi j'ai donné à la population ce qu'elle veut, je lui ai donné des procès corrompus. » Alors c'est vrai que quand les militaires commencent à purger, il faut quand même imaginer un pays où on met la moitié du CAC 40 en prison, littéralement. Et où on les ressort, les uns 6 mois, les autres 1 an, les autres, etc. Et 2 anciens premiers ministres et le chef des services de renseignement. Sauf que là aussi, c'était trop peu, trop tard. La population ne pouvait pas accepter ce qu'elle appelait l'alternance clanique. Elle voulait une authentique transition démocratique. Donc, en septembre, Gaïd Salah a dit « Oh, bah maintenant, la récréation est finie. Dans 3 mois, on va convoquer le corps électoral et puis on aura un nouveau président. » Et puis après, tout le monde a mis ça quand même merveille de la bureaucratie algérienne. On a réussi à élaborer en 48 heures une loi électorale et des nouvelles listes électorales. Là, franchement, respect. Et puis après, parce qu'il y a un délai constitutionnel de 3 mois, on a eu les élections du 12 décembre, où, c'est ça qui est quand même pratique, le chef d'état-major avait désigné le président, et ben c'est celui qui a été désigné, qui a été élu, oh surprise. Ce qui a été beaucoup plus intéressant, c'est que officiellement, on a eu 40% de participation. La réalité tourne autour de 10%. Mais que le Khirak n'est pas tombé dans le piège de la provocation. Il n'a pas perturbé les opérations électorales. Si les Algériens voulaient aller voter, qu'ils aillent voter. Là aussi, je rappelle certains moments de la guerre de libération, on n'a pas été si tendre pour ceux qui allaient voter. Parce que ce parallèle, ce sont les Algériens qui le font. Et aujourd'hui, ils le disent sur tous les tons. En 1954, qui pouvait miser un sou sur le fait que les Algériens seraient un jour indépendants de ce qui était encore le grand empire français ? Eh bien, nous allons y arriver. Et nous allons y arriver en restant fidèles à notre discipline de non-violence. Et effectivement, on peut dire, ah oui, mais quand vous sortez que le vendredi, le régime ne s'épuise pas, le système ne s'épuise pas. Sauf que si, il s'épuise. Parce que lui, il travaille le reste de la semaine. Tandis que le reste de la semaine, les Algériens le regardent faire des bêtises. Et ils attendent le vendredi suivant. Donc il y a une grande sagesse qui n'était pas planifiée, mais qui s'est révélée extrêmement efficace. Il y a eu des débats. Est-ce qu'on va couper les routes? Est-ce qu'on va bloquer les centres pétrochimiques? Est-ce qu'on va faire ceci ou cela? Désobéissance civile. Ils ont tranché contre. Parce qu'en fait, cette non-violence-là, dans son côté festif, dans son côté presque familial, elle est inclusive. Et c'est bien de cela que les Algériens avaient enfin besoin, après tellement d'exclusions. Mauvais Algériens, affreux Algériens, harkis, collabos, fils de France, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le record, si j'ose dire, a été battu par le ministre de l'Intérieur à la veille des élections, qui a qualifié dans l'ordre les opposants de traîtres, mercenaires, pervers, et puis visiblement il ne savait pas quoi dire de plus, homosexuels. Et donc, une fois qu'il avait dit ça, tout le monde s'est demandé s'il avait consommé je ne sais quelle substance. Et le lendemain, au Sénat, on espérait de lui un démenti, et il a répondu « Mais non, je maintiens tout ce que j'ai dit parce que je parlais des fils de France. » Donc voyez, hein, l'accusation qui est toujours portée, non pas seulement... Donc c'est vraiment, voilà, infâme. Mais les Algériens valent heureusement beaucoup mieux que ça. Ils ne se laisseront pas prendre à ceci. Alors, vous aurez des questions. Moi, je voudrais insister sur des éléments qui n'apparaissent peut-être pas spontanément. Le premier, c'est le football. Fondamentalement, si ce mouvement a pu rester non-violent, s'il a pu occuper la rue pacifiquement, c'est grâce aux supporters de football. Et quand je vois d'autres pays arabes, que je n'évoquerai pas, connaître aujourd'hui dans leur stade, tous les vendredis, des rassemblements contestataires de fait, avec des hymnes, des slogans, des véritables célébrations anti-régime, eh bien, je pense qu'ils devraient méditer l'histoire de l'Algérie. Il faut savoir que l'hymne aujourd'hui du Hirak, ça s'appelle la Casa del Muradia. El Muradia, c'est l'Élysée local. Et ça vient de la Casa de Papel. Je ne sais pas si vous avez Netflix. Moi, je n'ai pas Netflix. Mais la Casa de Papel, c'est un casse où, je crois, 1 milliard d'euros est détourné. Les Algériens ont dit, mais c'est rien, ça. Nous, ce n'est pas 1 milliard d'euros qu'ils ont détourné. Depuis le temps, on en est à des centaines. Donc, ils ont fait la Casa del Muradia. La chanson est faite avant le Hirak. Et elle parle déjà du cinquième mandat. Ils nous ont fait le premier mandat, ils nous ont fait le deuxième mandat. Ils vont nous faire le cinquième mandat. Donc, évidemment, c'est apparu prémonitoire. Mais surtout, de même qu'il n'y a pas de meilleur douanier qu'un ancien contrebandier, il n'y a pas de meilleur pacifiste qu'un ancien hooligan. Parce qu'un hooligan sait parfaitement à quel moment, casseur, provocateur, Donc, ils savent parfaitement à quel moment retenir leur coup. Et c'est eux qui ont encadré les défilés, c'est eux qui ont encadré les manifestations et qui ont permis, parce qu'on n'a pas comme ça une non-violence qui s'inscrit dans la durée sans une organisation, c'est évident. Et le football, je le mentionnerai aussi par rapport à la France. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie est une des meilleures nouvelles possibles pour la France et pour la société française. Et je prendrai là aussi l'exemple du football. Vous savez que l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Alors là aussi, c'est presque mathématique. Dès que l'Algérie se démocratise, elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 1990 et en 2019. Parce que dans les deux cas, ça a été une victoire offerte au peuple et non pas au régime. Et on a une équipe qui a été remontée par un sélectionneur franco-algérien avec nombre de ses membres qui avaient en fait fait leur classe sous le maillot bleu et qui étaient et qui sont binationaux, y compris certains qui ont été ramenés assez tardivement. Donc non seulement ils ont remporté cette finale dans l'Égypte de la dictature de Sissi, infligeant un camouflet sans précédent au Nasser du pauvre, mais en plus ils ont célébré cette victoire de manière pacifique. Et quand ils ont vu les incidents en France pour la demi-finale, ils ont fait passer le message. Y a-t-il eu des incidents pour la finale? Non. Ce qui veut dire aussi qu'il faut quand même intégrer. Il n'y a pas, heureusement, que le virus qui circule et qui passe les frontières. Mais qu'il y a aussi des messages de solidarité, de fierté, de dignité, et donc d'intégration, qui peuvent passer du sud vers le nord. Et ça, il serait peut-être important qu'on en ait conscience. En tout cas, moi, je vais finir là-dessus, parce que, voilà, je pense que vous aurez des questions, puis comme ça, je pourrai voir ce qui vous intéresse le plus. Mais vraiment, gardez à l'esprit qu'en ce moment, en Algérie, il se passe quelque chose de fondamentalement positif, qui est une nouvelle fondamentalement positive pour la France et sa société. Merci de votre attention.
Bien, donc on va, suivant l'habitude, laisser à notre orateur le temps de se restaurer un petit peu, du moins de commencer à se restaurer. Et puis, pendant ce temps-là, vous êtes invité à penser aux questions que vous lui poserez ensuite. Merci, en tout cas, de cet exposé extrêmement complet, synthétique, intéressant, et qui ouvre effectivement tout un tas d'interrogations complémentaires.
Hop, allez-y.
Merci, Florian. Merci. Excellent appétit, cher monsieur.
Pensant à l'économie, qu'est-ce qui se passe ?
Ah ben l'économie a dégringolé, mais c'est la faute du régime. Ah oui, mais le